L'actualité des Alpes du Sud avec cette information Alpes 1, le département des Hautes-Alpes pointé dans sa gestion.
La Chambre régionale des comptes a fouillé les avis du conseil départemental entre 2012 et 2017. Dépenses pour un usage personnel, remboursement irrégulier, promotion de proches. La CRC accable notamment le président Jean-Marie Bernard.
11 centres de trésorerie pourraient trouver porte-close dans les années à venir dans les Hautes-Alpes.
C'est l'inquiétude de Jean-Michel Arnaud, président de l'association des maires dans le département, qui appelle les élus à faire des contre-propositions à cette réorganisation.
Alors que la journée des réfugiés se tiendra partout en région ce vendredi, les Alpes d'Haute-Provence avancent d'un chiffre.
10% des réfugiés ont été accueillis en 2018 sur le territoire, soit 126 personnes. Ils ont également été 700 à fuir leur pays pour venir dans le département et déposer une demande d'asile.
Et puis la Via Ferrata des Hautes-Terres accueille ce samedi une petite nouvelle, la Ferrata Familia des Ammonites.
Un nouveau parcours près du Caire qui pourrait être réalisé dès 7 ans. Il aura fallu 2 mois et demi de travail pour poser 150 barreaux et environ 300 mètres de câbles météo.
Eh oui, le soleil fait son show aujourd'hui sur nos deux départements. Le temps bien ensoleillé, quelques bancs de nuages d'altitude avec des petits cumulus. L'après-midi viennent agrémenter le bleu du ciel côté température. Les maxi 26 à 31 degrés sur les Hautes-Alpes et ça montera jusqu'à 32 sur les Alpes de Haute-Provence. C'est une information Alpes 1. L'argent des contribuables aux Alpes 1 aurait-il servi à financer des dépenses personnelles au sein du département des Hautes-Alpes?
Si le point n'est pas encore à l'ordre du jour de la prochaine assemblée plénière prévue le 25 juin prochain, la Chambre régionale des comptes a rendu son rapport après avoir passé au crible la gestion de l'hémicycle aux Alpes 1. Un rapport que la rédaction d'Alpes 1 s'est procuré avant sa parution publique et qui met en exergue certains points d'irrégularité au sein du département. La CRC remet ainsi en question directement la gestion du président Jean-Marie Bernard. Elle s'interroge quant à la possible utilisation des deniers publics à un usage personnel. Les explications avec vous, Aurore Valory.
Dans son rapport, la Chambre régionale des comptes se questionne sur certaines dépenses, notamment des cadeaux avancés par le département comme étant protocolaires ou destinés à la communication. Ainsi, des sacs de golf, sacs de voyage, balles et casquettes de golf ont été acquis entre 2015 et 2017. Si le département justifie ses achats par l'organisation d'une compétition annuelle de golf, la Chambre n'en trouve aucune trace. Des achats effectués également à faible quantité, d'un à quatre exemplaires. La CRC présume ainsi qu'ils étaient destinés à un usage personnel, une pratique pénalement répréhensible comme elle le souligne. La Chambre régionale des comptes se penche aussi sur les factures essence du président. Ce dernier se ferait ainsi verser une indemnité kilométrique doublée d'un remboursement des frais de carburant. Jean-Marie Bernard a en effet déclaré au titre des indemnités de fonction près de 5000 euros de déplacement entre son domicile dans le Dévoluy et l'hôtel du département à Gap en 2016 et près de 5400 euros en 2017. Sauf que ces déplacements, dont la motivation paraît vague et imprécise selon la Chambre régionale des comptes, ne correspondent pas à des trajets pour se rendre aux séances plénières ou bien encore aux commissions. Ensuite, Jean-Marie Bernard bénéficie en parallèle d'une carte essence pour son véhicule personnel avec laquelle il a acheté plus de 2000 euros de carburant en 2016 et près de 3000 euros en 2017. Une consommation qualifiée de disproportionnée car elle représente l'équivalent de 277 à 377 allers-retours entre Gap et Dévoluy. De son côté, le département justifie le fait que le président n'a pas de voiture de fonction, argument insuffisant pour la Chambre qui ne peut s'assurer que l'élu poursuit le seul intérêt général. Des trajets domicile-gap jugés d'autant plus disproportionnés qu'un appartement de fonction existe au sein de l'hôtel du département. Appartement qui avait par ailleurs été rénové en 2016 à hauteur de 60 000 euros après un vote de l'Assemblée. Une promotion interne très favorable de certains agents pousse enfin la Chambre à aller plus loin, promotion dont a bénéficié l'épouse de Jean-Marie Bernard. La CRC estime que les modalités de cette montée en grade fragilisent la procédure. Si elle ne remet pas en question les compétences de la femme du président, elle avance aussi que 158 agents au sein de la collectivité étaient promouvables au même moment. Jean-Marie Bernard, quant à lui, répond, selon le président du département, les achats pointés par la CRC sont réguliers, mais proviennent d'une erreur d'imputation comptable. Quant à l'appartement de fonction, la carte essence ou les indemnités kilométriques, elles ne sont pas incompatibles, selon lui.
Merci Aurore. Jean-Marie Bernard ajoute également que le terme de logement de fonction n'est pas adapté. Il qualifie l'appartement disponible au sein de l'hôtel du département comme un logement d'appoint dont il n'a eu recours qu'une dizaine de fois par an.
La désertification des finances publiques dans les Hautes-Alpes inquiète Jean-Michel Arnaud.
Le président de l'Association des maires de France dans le département avance que 11 trésoreries pourraient fermer sur les Hautes-Alpes alors qu'en parallèle, 4 nouveaux services de proximité verraient le jour à la Bâtie-Neuve, le Dévoluy, Chorges et Valouis-Pelvoux. Une réorganisation d'ici 2022 qui lui a été présentée par la préfète et le directeur des finances publiques la semaine dernière. Jean-Michel Arnaud réunira ainsi les maires qui disposent d'un service de trésorerie pour faire des contre-propositions.
On parle de la fin de la taxe d'habitation et donc quel impact dans nos territoires?
Le Premier ministre a annoncé le 12 juin dernier la suppression totale de cet impôt sur les résidences principales pour tous les foyers, quel que soit leur revenu. Dès l'année prochaine, 8 Français sur 10 ne paieront plus cette taxe avant une suppression complète. Dès 2023, 24 400 000 foyers profiteront de cette mesure, soit un gain moyen de 723 € par an et par foyer. Pour les Hautes-Alpes, ce gain s'élèvera à 519 € par foyer par an. Ce sera 544 € estimés pour les Alpes d'Haute-Provence.
Et puis, en bref, ce décès en montagne.
Un alpiniste a fait une chute de 100 mètres après avoir glissé sur une langue de neige sous le refuge de l'Aigle. L'homme de 70 ans, polytraumatisé, a été pris en charge par la CRS de Briançon. Il a été transporté par l'hélicoptère sur Grenoble où il est décédé des suites de ses blessures.
Ils sont plus de 700 migrants à être accueillis dans les Alpes de Haute-Provence.
La préfecture du département fait le bilan alors qu'aura lieu ce vendredi la journée des réfugiés. Sur ces 700 personnes qui ont fui leur pays, 500 sont des adultes, 200 sont des mineurs. 3 CAO, centres d'accueil et d'orientation destinés aux personnes isolées, accueillent en tout 108 migrants à Digne-les-Bains, Sisteron et Barcelonnette. Un CADA, un centre d'accueil de demandeurs d'asile, offre 210 places sur Digne-les-Bains, Manosque et Sisteron. Enfin, un dispositif d'accueil temporaire service de l'asile de 50 places a été mis en place à Maligé. En tout, cela fait ainsi 368 lits, soit un taux de 2,2 places pour 1000 habitants, soulignent les services de l'État. Notez que l'année dernière, 126 personnes reconnues réfugiées ont été prises en charge par le département, soit 10% de ce public en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Une demi-tonne de déchets récoltés à Orcières ce mardi.
Oui, une session de ramassage s'est tenue avec une soixantaine de bénévoles mobilisés pour l'opération. Une opération qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale lancée par Mountain Riders pour lutter contre la pollution en montagne. On reste dans le secteur de la biodiversité, une biodiversité qui est soutenue par la population apicole, des abeilles pourtant en danger de disparition. Le Crédit Agricole Alpes-Provence veut donc œuvrer pour cette population de pollinisateurs à travers sa fondation. Elle a lancé des fleurs pour des abeilles. Jusqu'au 21 juin, 30 000 sachets de graines de fleurs mellifères seront distribués aux clients, sociétaires, collaborateurs et administrateurs du Crédit Alpes-Provence sur toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'idée est de sensibiliser et de mobiliser sur le sort des abeilles. Alexandre Chabel, directeur de communication du Crédit Agricole Alpes-Provence.
On souhaite que tout le monde prenne conscience du problème, sensibilisé par le symbole de ce petit sachet qui veut dire beaucoup. Au-delà de l'aspect symbolique, c'est vraiment la mobilisation et la prise de conscience. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup sont sensibles, beaucoup sont à l'écoute de ces problématiques, mais qu'il faut multiplier les mobilisations. Et grâce à ce petit geste, l'objectif principal, c'est de faire en sorte que le maximum de personnes soient aujourd'hui impliquées de cette volonté d'aider les abeilles et par conséquent de protéger la nature. L'objectif sera atteint quand on sera sûr que les abeilles seront sauvées. En tout cas, si on se dit qu'on souhaite mobiliser un maximum de personnes et qu'aujourd'hui, on est passé de 3000 sachets à 30 000, on peut se dire qu'on est en bonne voie, tout simplement. Moi, ce que je souhaite, c'est que chacun puisse, à son niveau, participer davantage à sa protection, parce que la nature, c'est notre patrimoine.
Des propos recueillis par Luna Sanchez. Au total, 18 hectares pourront être semés en 2019 par les clients, les sociétaires et les collaborateurs.
Alpes 1 Sport.
Avec du hockey sur glace, le planning des matchs de préparation de l'équipe des Rapaces de Gap dévoilé par le staff.
L'Alpe Arena accueillera ainsi le dimanche 18 août les Sangliers de Clermont-Ferrand, sacrés champions de France de Division 2 la saison dernière. Ils assurent donc cette année leur montée en D1. Autour ensuite des Spartiates de Marseille, évoluant eux aussi en Division 1. Ce sera le samedi 24 août dès 19h. Un match qui aura des allures de saison régulière de Ligue Magnus. Ce sera le samedi 31 août dès 19h. Les Gapensais accueilleront Les Lions de Lyon, une équipe qui se dote d'atouts redoutables avec l'arrivée d'Antoine Bonvalot dans les cages, portier français de 25 ans qui a porté la coupe de la Ligue Magnus avec Grenoble. Autre Isérois à avoir signé chez les Rodaniens, c'est Loric Convert, champion de France U18 et U20. Des Lyonnais qui retrouveront face à eux la crosse d'Arthur Mikiewicz qui a quitté l'équipe pour les Hautes-Alpes après 3 saisons dans le Rhône.
La Via Ferrata des Hautes-Terres accueille ce samedi une petite nouvelle, c'est la Ferrata Familia des Ammonites.
Située à 1 km après le village du Caire en direction de Thuriez, ce nouveau parcours est plus facile et plus ludique. Il sera réalisable dès 7 ans contre 12 pour la Via Ferrata de la Grande Fistoire. Ce deuxième parcours est indépendant du premier. Pont, passerelle, échelle, le chemin a été construit par le bureau des guides de Castellane. Il leur aura fallu 2 mois et demi de travail pour poser 150 barreaux et environ 300 mètres de câbles. Un nouveau parcours qui permettra de profiter de la progression sur un rocher en toute sécurité. Sophie Bouillot est directrice de l'Office de tourisme intercommunal des Hautes-Terres et gestionnaire des sites de Via Ferrata.
D'abord, il y a eu une étude par rapport à l'emplacement du rocher. Ils ont fait le parcours en fonction de notre demande, à savoir, on voulait un parcours assez ludique et destiné aux débutants, et ainsi qu'aux familles et aux enfants. Ils ont fait un tracé en premier sur du papier. Après, ils sont venus voir. Il y a eu pas mal de purges par rapport au rocher. Et après, ils se sont lancés dans la construction et l'aménagement de ce parcours. Cette Via Ferrata a été validée par un bureau de contrôle la semaine dernière. Et après, au niveau sécurité, il faut savoir que cette Via Ferrata Familia est en ligne de vie continue. C'est-à-dire que, contrairement au mousqueton classique de Via Ferrata, une fois que vous avez mis votre curseur au départ, il ne peut plus se détacher. Vous ne pouvez pas faire de fausses manipulations. Donc ça, c'est un gage de sécurité et pour les pratiquants et pour nous au bureau d'accueil. Même pour une première Via Ferrata, voilà, vous aurez des sensations en toute sécurité.
L'inauguration se tiendra ce samedi à 11h. Notez que les 2 voies sont ouvertes tous les jours de mars à décembre et seulement la semaine de décembre à mars. Il est recommandé d'appeler au 04 92 34 46 39 pour réserver et connaître les prévisions météo pour plus de sécurité.
Vous êtes témoin d'un événement ? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.